avons écouté Frédéric Lefrançois.
Voilà, donc.
Nous accueillons ici pour la.
Merci de votre accueil. Compte tenu des circonstances qui sont manifestement bien réelles, il vous faudra tenir compte de l'impératif temporel et je ferai en sorte, à partir, on va dire, d'une infortune, transformer cette infortune en fortune sous votre regard bienveillant. Vous l'avez compris, j'ai été victime d'un problème informatique. Alors donc, on va essayer de reconstituer le maître, je parle du document, maître, à partir de ses fils, en vadrouille. Bon. Alors donc, je vais vous parler du théâtre de Carrie Phillips. Donc, ma communication s'intitule « Le roman familial, pierre angulaire de la création dramatique chez Carrie Phillips ». Commencer tout d'abord par, on va dire, le commencement, c'est-à-dire la présentation de cet auteur qui est récipiendaire de nombreux prix littéraires. Il est surtout connu comme romancier. Il a remporté le Commonwealth Prize en 2006. Alors donc, effectivement, on connaît moins la production dramatique de Carrie Phillips parce qu'il a commencé véritablement sa carrière littéraire en tant que dramaturge au début des années 1980. Trois pièces se sont succédées. 1979, Strange Fruit, acclamé au Jubilee Studio. Suivante, 1980, Where There Is Darkness, réécriture très originale d'une pièce de Miller, The Death of a Salesman. Et enfin, la troisième, très atypique, je crois, unique en son genre, The Shelter. Alors, l'objectif de cette communication est précisément de... Je vais m'excuser, c'est dans le fichier, voilà. Voilà. Alors, l'objectif de cette communication est de mettre en lumière les principes fondamentaux de l'économie actentielle du roman familial, tel qu'il figure dans les trois premières pièces de théâtre de Carrie Phillips, à savoir, comme je l'ai dit, Strange Fruit, Where There Is Darkness et The Shelter. L'essentiel de notre réflexion consistera, par conséquent, à identifier ce qui, dans la relation parent-enfant et dans la représentation qu'en donne l'auteur, ce qui dirige et travaille son art de la composition dramatique. Plus précisément, nous envisageons d'étudier les liens ambivalents, conflictuels, coupables, nostalgiques d'une parentalité en crise comme expérience fondatrice et structurante de l'amour contrarié, de la culpabilité, mais aussi, pour finir sur une note positive, de nouveaux horizons d'appartenance. Eh bien, la trilogie que nous étudierons offre au lecteur des regards croisés sur trois psychodrames familiaux, fédérés autour d'une problématique commune, celle de l'intégration de migrants antillais dans l'espace social britannique. La première pièce théâtrale, Strange Fruit, offre le portrait très émouvant d'une famille antillaise désintégrée par une suite d'abandons et de trahisons causées par, on dira, la blessure fondamentale, intime, celle de la désertion, celle de l'immigration, pour faire simple. Toutes ces blessures conduisent à la rupture du cercle familial et, invariablement, au sacrifice d'une instance, d'une figure parentale. C'est ce qui fondera l'intérêt de notre recherche, car nous verrons que toutes les pièces conduisent au meurtre psychique, ce que l'on appelle chez Strindberg le meurtre psychique, soit du père, soit du mère, soit des enfants, dans la dernière pièce, et nous verrons en particulier que la tentative de Phillips est de réhabiliter et de réparer un ses torts en essayant de rapprocher, de reconstituer une unité familiale désintégrée. Alors, notre démarche s'ancre dans une volonté de restituer à la psychanalyse freudienne tout son impact et toute sa force subversive. Je ne suis absolument pas hostile à Lacan, c'est d'ailleurs mon maître à penser, mon gourou, mais, oui, c'est vrai. Mais j'aime partir du début. Donc, en quelque sorte, nous essaierons de retrouver cette force subversive en utilisant pas tout à fait comme une méthode critique parmi d'autres, mais plutôt comme un moyen de compréhension qui permet d'éclairer la construction du texte dramatique et plus encore de pénétrer la relation d'un écrivain à son livre sans entrer dans les méandres de la critique biographique. Alors, peut-être partir sans vouloir vous faire injure, excusez-moi vos intelligences respectives, mais peut-être partir d'une définition. Je sais que tout le monde sait autour de la table ce qu'est le roman familial, mais enfin, j'aimerais partir d'une thèse de médecine, pour que ça soit bien clair dans quelle optique je vais. Donc, Selon la thèse de médecine qui est écrite par le docteur Bordarié, le regroupement familial est une construction imaginaire, qui est souvent consciente, qui peut être ensuite oubliée. Il s'agit, pour faire simple, eh bien, d'une œuvre imaginaire, d'un récit intérieur romancé, avec de multiples épisodes dont le sujet est le héros, c'est-à-dire l'enfant, et dans lesquels les parents sont généralement reconnus simplement nourriciers, ou, dans les cas les plus graves, responsables d'une faute. Alors, les parents réels sont à distinguer des parents imaginaires. Les parents réels sont des personnages, on va dire, les parents imaginaires, pardon, sont des personnages, les parents réels sont des personnages qui ont été obligés d'abandonner leur enfant, ou alors cet enfant leur a été substitué, ou enlevé. L'enfant pense ainsi pouvoir reconnaître ses parents grâce à certains signes, et qu'il pourra enfin jouir de leur fortune, de leur puissance. À l'inverse, plus rarement, cela arrive souvent dans les contes malheureux, l'enfant imagine que ses parents sont issus d'un milieu très pauvre. Bon. Notre problématique, eh bien, tient justement compte de cette logique d'échange, de ces échanges malheureux ou, au contraire, peu plus heureux. L'espace théâtral de Philips apparaît alors comme le lieu du transfert psychoculturel. Nous verrons que l'omniprésence de l'idéologie coloniale dans le discours tend à parasiter le discours identitaire parental et contribue notamment à oblitérer la fonction paternelle. La problématique existentielle à laquelle nous serons confrontés en étudiant l'économie actentielle de chaque pièce procède justement de cet antagonisme entre parents réels et parents symboliques qui constitue, selon Freud, le précipité du conflit dans l'œuvre littéraire. Je cite « le précipité du conflit ». Et puisqu'il s'agit précisément d'analyser les conséquences de cette oblitération, eh bien, nous ferons en sorte de montrer que père et mère occupent un anti-espace dérivé du sociotope colonial et que son ancrage ne peut s'actualiser en un lieu autre que celui de la mère, dans le cas où le père a été évincé, ou encore dans celui du père lorsque la mère a été évincée. Toute logique de subversion et de substitution ne pouvant s'orienter que dans cette direction. Ainsi, les polarisations identitaires que sous-tendent les antagonismes interculturels, eh bien, nous intéresseront en premier lieu. Alors, je vais commencer par établir, on va dire, les caractéristiques de la relation objective, objectale, pardon, dans les trois pièces, hein, et montrer quelle est la source et le moteur du conflit en précisant dans chaque pièce ce qui constitue la triade père-mère-enfant. Mon objectif, c'est de montrer que selon le meurtre originel, on aboutit à des triades père-mère-enfant différentes et qui vont en quelque sorte évoluer au gré des pulsions du dramaturge. Alors, je vais commencer par la première pièce, à savoir Strange Fruit. Alors, cette première pièce de théâtre de Philips, Strange Fruit, va commencer par l'exploration de la dimension tragique du quotidien de la génération Black British. On connaît un peu les années 1970, hein, le kitchen sink drama, hein, participe bien de cette dimension, de cette dynamique, hein, bon, voir le tragique dans le quotidien. Dans cette première œuvre théâtrale, le dramaturge présente donc la famille Marshall, qui est une famille d'enfants immigrés. Donc il y a le père qui est absent, la mère Vivienne Marshall lui a survécu, et ses deux enfants Alvin et Errol. Donc chaque personnage va tenir ici un rôle symbolique. Alors dans Strange Fruit, voici la première configuration, mère phallique, père oblitéré ou dominé et enfant rebelle. Alors cela va donc, à mon sens, s'élaborer sous la forme d'une topique. Cette première topique s'opère sous le signe de la fuite, en tant que dynamique de refoulement du désir de toute puissance. Nous envisageons, dans ce premier cadre, la subversion, puis l'inversion de l'Œdipe, tel qu'il a été exposé par Freud, sous les auspices d'une topique de dissimulation, c'est-à-dire qu'il y a eu dissimulation du meurtre psychique, du père réel par la mère, assisté du père symbolique, qui s'actualise dans la figure du maître, et dans tous ses avatars coloniaux. Nous envisagerons pour l'heure d'articuler notre réflexion autour de deux complexes fondamentaux, le complexe d'Oreste et le complexe d'Othello. Alors, c'est mon premier point, l'Orestie, hein, le complexe d'Oreste, à savoir le meurtre psychique et symbolique du père. Mais il commence par la confrontation du père réel et du père symbolique. Alors, la structure actentielle de Strange Fruit, nous l'avons dit, est centrée sur la culpabilité mortifère des survivants au père. La faute impardonnable du père réel, à savoir Wallace Marshall, qui est resté à Saint-Kitts, qui est mort à Saint-Kitts, son hubris, eh bien, ça a été de se rebeller contre le père symbolique, c'est-à-dire le maître, on entend par le maître tout-puissant, colonial, hein, le maître de l'exploitation, le maître de la plantation, le maître qui règne sur ses esclaves, qui est substantialisé sous la forme du président de la Fédération de cricket. Oui. Alors, le père réel, par contre, qui est le digne représentant de l'esclave colonisé, s'insurge contre une décision prise par le pouvoir colonial. À cela, rien de nouveau, on le sait déjà depuis Hegel, le devenir de l'esclave est un devenir esclave. L'horizon de sa liberté se confond en défini avec l'horizon d'une usurpation. Nous sommes ici en présence d'une logique substitutive. Le phallus, en tant que signifiant du pouvoir du maître, emblème et sceptre du pouvoir sexuel absolu, est détenu par l'autre, avec un grand A, tandis que le sujet barré, S-bar, tâche par tous les moyens de se l'approprier. C'est Wallace. Et donc, pour se libérer de l'emprise du père primordial, chef de la horde, selon Freud, Wallace va justement tenter de fédérer toutes les énergies rebelles autour d'un projet de castration du maître. Son objectif est simple, il s'agit de détruire l'autorité de ce dernier en poussant les membres de son équipe par une grève à contrer la décision du président de la Fédération nationale et de le nommer lui en tant que capitaine blanc, au lieu du capitaine blanc. Or, par un subtil retournement de situation, c'est lui-même qui se retrouve réduit au silence et à l'impuissance. Eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, les membres forment une coalition et finalement complotent pour dénoncer ce projet de grève et Wallace se voit finalement évincé de son équipe et un autre capitaine est nommé. Plus intéressant encore est l'alliance entre la mère réelle et le père symbolique, car il est un autre actant qui, dans cette crise du désir mimétique, attend patiemment son heure pour choisir son camp et, que l'on me pardonne cette expression, tirer les marrons du feu. C'est la mère, l'autre, avec un petit A, qui se range aux côtés du maître, une fois que la défaite de l'esclave révolté est consumée. Honneur et jouissance au vainqueur, honte et castration au vaincu. Telle est la conclusion sur laquelle s'achève le premier acte de Strangefoot. Mais de cela, les enfants, Alvin et Errol, ne savent rien, car la mère se fait fort de dissimuler sa complicité à ses enfants, en espérant de pouvoir jouir indirectement de ce phallus, usurpé, en essayant de les convaincre ses enfants que le salut se trouve en celui qui préfère la soumission à la lutte. Cette décision illustre parfaitement l'affirmation de Lacan, le phallus ne peut jouir que son rôle que voilé. Et précisément, ce voile, quel est-il? Eh bien, c'est le voile d'une inversion, c'est la scène primitive qui a été inversée, à savoir la scène primitive où le rapport sexuel présumé entre le père réel légitime et la mère réelle légitime se voit inversé. En quelque sorte, la mère, en s'adjoignant au maître, l'amant, ou alors le père, chef de la horde, renverse finalement la domination et devient en quelque sorte complice. Mais en faisant cela, elle a mis en marche la machine du désir avide. Alors je précise ce que j'appelle le désir avide, c'est un petit jeu de mots, j'ai essayé de faire un petit jeu de mots lacanien, avide, le désir avide, c'est le désir sans fin. Mais c'est le désir qui fonctionne sur rien, sur le vide, à vide, voilà. Et elle a aussi initié un cycle de vengeance en cascade. Bon. Alors on l'aura compris, le théâtre de Philips revêt à plusieurs égards des accents shakespeariens et rappelle même un peu Sophocle. Un critique, d'ailleurs, à la sortie de Weather's Darkness, s'était même écrié que Philips s'était contenté de détourner, l'expression c'est « pillaged », les chefs-d'œuvre de la culture blanche pour les réutiliser au profit de l'homme noir. Je ne sais pas comment interpréter cette critique. Toujours est-il que je constate avec une très grande originalité dans cette entreprise de détournement, en particulier lorsqu'on arrive au point suivant, c'est-à-dire les vengeances, hein, les vengeances, mais aussi les réconciliations. La révolte première est celle des fils, et celle du père, pardonnez-moi, révolte de l'esclave contre le maître, révolte qui, finalement, comme cela se voit à la fin de l'acte 1, est reprise par les fils, à savoir en particulier Errol, qui est le leader d'une grève, d'une seconde grève, une grève tout à fait utopique. Il s'agit tout simplement de bloquer l'économie britannique dans son ensemble, de faire un boycott de tous les produits britanniques, en espérant que tous les Noirs et tous les gens de couleur de Grande-Bretagne, en cessant d'acheter des produits britanniques, eh bien, bloqueraient la machine. Bon, c'est utopique pour le moins. Alors, toujours est-il que cette révolte des fils, qui sont des fils imaginés, et non pas des fils réels, car ils sont conformes au désir de la mère et donc au désir du père symbolique, ce sont des fils qui doivent, en quelque sorte, s'assimiler, être assimilés à des, on va dire, des épigones du pouvoir colonial. Eh bien, ces fils vont, en quelque sorte, par ce moyen, tenter de subvertir, mais sous le mode du fantasme, l'idéologie coloniale. Que font-ils? Donc concrètement, ils vont cesser leurs études et mettre au point, en quelque sorte, ce projet de grève, l'appel au boycott, mais aussi, plus étonnamment, une fuite très symbolique, un retour aux origines, soit vers l'Afrique, soit vers les Antilles. Et nous allons voir justement qu'en retournant au pays natal, c'est-à-dire les Antilles, qui symbolisent ici l'espace originel du père, d'un père qui a été divinisé par la mère pour, en quelque sorte, essayer de rattraper le coup, de se faire pardonner, eh bien, nous allons voir précisément que c'est une sorte de mythe familial qui va être découvert dans la mesure où c'est la particularité des origines, hein, telles qu'on les appelle, hein, bien, le roman des origines, eh bien, ne se trouve pas en un lieu unique. Hein, comme c'est généralement le cas des peuples ataviques, pour reprendre une qualification bien chère à Glissant. Non pas en un lieu précis, unique, mais plutôt à l'intérieur d'une zone ethnoculturelle multipolaire que le sociologue afro-britannique Paul Gilroy appelle l'Atlantique Noire. Alors, qu'il soit entendu que cette dénomination d'Atlantique Noire ne répond aucunement à quelque désir d'essentialisation de l'espace identitaire, mais bien à un projet d'appartenance holistique. Il faut tenir compte de toutes les appartenances, de toutes les origines. Ce que, qui correspond à l'Atlantique Noir, c'est une zone, une aire délimitée par le triangle transatlantique, le Nouveau Monde, les Antilles, l'Europe et l'Afrique, pour faire simple. Et à l'intérieur de cette vaste aire, eh bien, se trouve justement eh bien, le sujet en évidence. Ainsi, chaque pôle de ce triangle, de cet Atlantique Noir, agit en tant qu'agent d'attraction et de répulsion à la fois. Car le sujet culturel dépeint dans chaque pièce se caractérise par des appartenances et des origines multiples. Ainsi, le pôle britannique apparaît dans Strange Fruits comme dans Weather's Darkness comme le pôle d'appartenance au père symbolique. Le père symbolique, c'est le maître. Ainsi, et par ailleurs, le pôle africain, ici, est le pôle du père réel imaginé, c'est-à-dire qu'il correspond plus ou moins au père imaginaire tel que, eh bien, il est représenté par, par Erol, le fils rebelle, tandis que l'on retrouve le père réel dans la Caraïbe où il est mort. Bon, en quelque sorte, c'est cette béance existentielle par la suppression, mais aussi par la substitution du père réel au père symbolique. Alors, quelle est justement, quelles sont les caractéristiques de cette économie libidinale qui conduit les différents actants à se transférer, à se déplacer d'un pôle à un autre? S'agit-il, lorsqu'on veut aller vers l'Afrique, d'une resexualisation du père réel? On le sait, il a été castré. Ou encore d'une désexualisation du père symbolique par lequel, finalement, tout est arrivé? Qu'y a-t-il de commun entre tous ces personnages masculins qu'on retrouve dans les trois pièces? Pourquoi veulent-ils toujours partir? Que sont-ils en train de fuir? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a finalement une ligne de fuite, hein, un lieu commun en quelque sorte, c'est qui nous conduit à penser que la réception du drame philippien dépasse de loin la simple définition d'un horizon d'appartenance unique. Hein. Plutôt, dirons-nous, que la simple exploration du problème de l'horizon d'appartenance de ces communautés en pièces, hein, dirons-nous, va au-delà eh bien, d'une simple identification matérielle. Il faut aller bien plus loin pour saisir toute la dimension de ce drame sociétal et psychologique. Ainsi, le problème de l'être, tel qu'il est posé dans les trois pièces de Philips, se réduit souvent à la recherche de l'origine qui se confond avec la recherche du lien avec le père. Ce n'est pas l'étant qui est en cause, mais l'être dans ce qu'il a de plus aliéné vis-à-vis de lui-même et des autres. Dès lors, recherche du père et recherche du lien au père, c'est en quelque sorte à la recherche du lien perdu, hein, s'assimile à la quête d'un objet que l'on pourrait réduire à l'essence du fétiche paternel resexualisé. D'où le totémisme des positions spatiales et la verticalité des postures discursives qui s'observent dans la facture du texte. Les répliques hommes-femmes sont souvent pétries d'une profonde misogynie. De la bouche d'Erol, Marshall et d'Albert Williams sortent souvent des diatribes contre la féminité faite mère. Car, au grand dam du père et du fils, la mère est complice du maître dans le même crime de castration. Alors, qu'elle soit de nature symbolique ou physique, celle-ci, la castration, vise une cible invariable, le phallus totémique du colonisé, extérieurement soumis par la force à l'état de servitude, mais toujours libre et rebelle intérieurement, foncièrement révolté. Le personnage d'Erol Marshall illustre parfaitement cette tension existant au cœur même de la psyché du dominé, car il oscille entre des rêves d'usurpation et d'accaparement du maître par le biais d'une révolte syndicale, comme nous l'avons dit, ou encore, pour aller un peu plus loin, dans la mégalomanie, d'un véritable projet politique de libération nationale. Du reste, nous le verrons, nous l'avons vu, sa situation est vraiment emblématique de sa position de dominé. Alors, on pourrait finalement essayer d'aller dans une dimension prophylactique, se dire, bon, maintenant que l'éthologie du mal a été mise au point, que faut-il faire maintenant? Et la première tentative est de supprimer, d'éliminer le père réel idéalisé, c'est-à-dire le fantasme du père réel idéalisé. Que fait Alvin en se rendant aux Antilles? Il aperçoit que ce père, qui avait en quelque sorte assimilé à une sorte de héros, de super-homme, d'Ubermensch, pour citer Freud, eh bien, a au contraire été une épave, hein, du début jusqu'à la fin. Il n'a jamais été aussi brillant que la mère le prétendait. Alors, au retour, il s'efforce justement de prouver à son frère eh bien, que ce mythe familial est au contraire est source et on va dire moteur de bien des désillusions et peut-être aussi hein, la cause principale de son aliénation. La deuxième tentative thérapeutique serait aussi l'acceptation de la filiation réelle. Accepter ce père qui n'est pas si glorieux, c'est en quelque sorte s'accepter soi-même, et non pas espérer, désirer à vide, toujours en espérant que ce vide soit comblé par, hein, dirons-nous, la rencontre avec un autre, un ailleurs, toujours transcendant. Une autre tentative, finalement c'est celle-là qui sera la plus efficiente, c'est l'annihilation de la mère symbolique. Pas de la mère réelle, mais de la mère symbolique, et la destruction des imagos filiales soumises. En annihilant la mère symbolique, c'est-à-dire celle qui... observez bien que ça n'existe pas, mère symbolique. Hein, j'ai essayé de... On parle de peut-être de sexisme dans la psychanalyse, je suis un peu d'accord. On parle toujours du père symbolique. Mais où est la mère symbolique? J'en ai jamais...
Parce qu'il
est asexué. Oui, alors voilà, il y a un problème ici.
Ça fera l'objet d'un... Oui.
Alors donc annihiler la mère symbolique, en tout cas la complice du maître, et détruire les imagos filiales qui sont soumises au maître, c'est se libérer de ce carcan. Et donc on va justement assister au meurtre psychique de cette mère symbolique par, dirons-nous, la première démarche qui est celle de la mise en lumière de la vérité. Voilà, mère, tu as menti, tu nous as fait croire eh bien que notre père était un super-héros, alors qu'en fin de compte, sa tombe est anonyme. On ne sait même pas où il est, où est sa dépouille. Bon. En quelque sorte, la mère va réagir par un processus de refoulement, mais aussi de culpabilisation, si bien que, comme dans l'Orestie, elle sera poursuivie par ses spectres, eh bien, ses harpies qui vont la conduire tout simplement à se suicider. Je vais devoir rapidement faire vite, puisque Patricia va passer juste après. Et également éliminer les idéologies telles que le garéisme et le rastafarianisme, qui sont en fin de compte des idéologies tout aussi paternalistes que le colonialisme, parce que, les pères imaginés sont notoirement absents et inefficaces, et deuxièmement, l'horizon d'appartenance et de définition qu'ils proposent, ces pères imaginés, Garvey ou encore Bob Marley, sont tout aussi lointains que celui du père blanc. Alors, je termine avec le dernier point, c'est la réhabilitation des instances parentales. Alors, il y aura d'abord réhabilitation de la mère réelle, comme nous l'avons dit, mais vraiment trop tard. Dans Strange Fruit, comme dans Where is Darkness, la mère a le temps d'être tuée, soit par les paroles très acerbes de leur fils, Hein, bon, on a compris ici, hein, c'est Oreste ou Hamlet qui se confondent en une seule et même personne, c'est-à-dire Hérole. Et soit cette mère va être évincée par le père dans la deuxième pièce, Where is Darkness, elle sera tout simplement mise à distance par le père. Et dans ce cas, on s'aperçoit que le meurtre psychique est générateur d'un contre-transfert, dans la mesure où, une fois que le parent symbolique a été éliminé, on peut pardonner plus facilement au parent réel. Alors, ainsi, et je vais essayer de conclure sur ce point, la programmatique scripturaire de l'horreur, de l'auteur, pardon, lapsus révélateur, semble s'objectiver dans un vaste projet plus général de réhabilitation ontologique des figures parentales. Si on poursuit l'analyse, on se rendra compte que cette vaste entreprise de réconciliation avec les origines correspond dans ses linéaments, ni plus ni moins qu'à une reconstruction de l'ego auctorial. En voulant réhabiliter le père, l'auteur appelle de ses vœux un rééquilibrage des transferts affectifs dans les rapports parents et enfants. L'anomie détectée chez des personnages masculins emblématiques comme Errol Marshall ou encore Remy Williams dans Where is Darkness fournit un excellent point de départ pour expliquer le fonctionnement de la béance essentielle, c'est-à-dire l'absence d'horizon d'appartenance. Je vais sauter une partie, vous m'excusez, je vais aller directement à la conclusion. Alors, pour conclure, je dirais que le lien au père, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de la mère aujourd'hui, mais pas beaucoup du père, le lien au père constitue finalement l'horizon, la ligne de partage entre le réel, l'imaginaire et le symbolique. Non pas seulement parce qu'il est le détenteur originel du phallus, mais aussi et surtout parce qu'il est celui qui s'élève en tant qu'agent de la division. Et dès lors, ce principe de division apparaît en tant qu'agent de la structuration dans la fiction théâtrale. En quelque sorte, en permettant au père de retrouver son espace, c'est-à-dire mais aussi le pouvoir d'instituer la loi, eh bien, on voit finalement une tentative de réconciliation aboutir à un succès. Alors, je vais devoir m'arrêter ici et vous inviter au débat. Il y a encore autre chose, mais le temps. Hein, voilà. Merci.